Radio Okapi.
Les informations, Babel Pongo Massimango.
Madame, Monsieur, bonjour. La journée internationale de la femme avec cet appel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres appelle à l'Union pour atteindre les objectifs de développement durable du programme d'action Beijing plus 30. Il estime qu'en luttant contre les lois et les pratiques discriminatoires, il est possible de faire de la justice une réalité pour les femmes et les filles partout dans le monde. Le projet de loi sur l'accord de paix RDC-Rwanda et l'accord stratégique RDC-États-Unis depuis samedi au Parlement pour ratification. C'est la première ministre qui a remis ses textes au président de l'Assemblée nationale en présence de celui du Sénat. Pour Judith Souminoua, il faut que les élus et le peuple soient informés du contenu de ces accords. Invité ce journal, Christelle Vangamou Kongo, élue de la circonscription électorale de la Funa ici à Kinshasa, la présidente honoraire de la commission Jeunes, Familles et Enfants de l'Assemblée nationale, dresse en état de lieu du leadership féminin en République démocratique du Congo. Bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons ce journal avec la Journée internationale de la femme et ses chiffres révélés hier par le secrétaire général des Nations Unies. Pour Antonio Guterres, à l'échelle mondiale, les femmes ne détiennent que 64% des droits légaux dont bénéficient les hommes. Ainsi, cette année, l'accent est mis sur les droits, l'action et la justice pour toutes les femmes et les filles. Que retenir d'autre du message du patron de l'ONU, Jude Mister Bilanda?
Pour le secrétaire général de l'ONU, la discrimination légale peut influencer tous les aspects de la vie d'une femme. Elle peut se voir refuser les droits de posséder de biens, de divorcer ou de travailler sans l'autorisation de son mari. Dans plus de 40 pays, les viols conjugaux n'est pas reconnu comme un crime. D'autres lois restreignent l'accès des femmes à l'éducation, leur capacité à transmettre leur nationalité à leurs enfants, voire leur liberté de circulation hors de leur domicile. Là où des protections juridiques existent, la discrimination et la faiblesse de leur application font que les femmes ont toujours du mal à accéder aux tribunaux et à l'aide juridique, poursuit Antonio Guterres. Nombre de ces lois injustes sont en vigueur depuis des siècles. Face à la montée de l'autoritarisme, à l'instabilité politique croissante et à la volonté renouvelée de consolider les patriarcats, les acquis durement obtenus sont remis en cause, qu'il s'agisse de la protection du travail ou des droits sexuels et reproductifs, ajoutent les patrons de l'ONU. En luttant contre les lois et pratiques discriminatoires et en défendant les progrès déjà accomplis, nous pouvons garantir la dignité, les opportunités et la liberté que toutes les femmes méritent. Il est temps de faire de la justice une réalité pour les femmes et les filles partout dans le monde, conclut Antonio Guterres.
Et toujours en rapport avec la Journée internationale pour la promotion des droits des femmes au Nord Kivu, l'organisation Programme d'appui congolais engagée pour la paix et la démocratie plaide pour la prise en compte des compétences des femmes au même titre que celles des hommes. Pour sa coordonnatrice Brigitte Patapoa, cela permettrait de mieux faire face aux défis sécuritaires et de booster le développement dans la communauté. Elle explique cela au micro de Marc Marofimbo.
S'il faut parler des droits, justice, la femme ne joue pas encore en entièreté de ses droits, de la justice et de l'autonomisation. Nous en avions déjà célébré durant des années cette journée de la femme, mais les défis sont encore là. L'intégration de la femme au poste de décision par rapport à la sécurité, par rapport à la protection de la femme de la province du Nord Kivu, à combien de pourcents elle participe aux réunions de sécurité? À combien de pourcents les femmes de la province du Nord Kivu, soit même de la ville de Beni, participent aux décisions qui sont prises dans le cadre de mener ou de booster le développement local? Nous lançons juste appel à toutes les autorités, à tous les hommes même qui ont des entreprises, des sociétés, de miser aussi sur la femme. Relevons aussi la femme qui est aussi compétente auprès des hommes. Parce que s'il s'agit de recruter, le recrutement se passe sur base de compétences. Qu'elle soit aussi prête à prendre des risques, il ne suffit pas d'avoir un diplôme d'État et de se courber.
Et depuis plusieurs décennies, les structures de défense de droits des femmes dans l'espace Kasaï militent pour l'égalité entre l'homme et la femme, mais certaines coutumes jugées rétrogrades, voire avilissantes, continuent de freiner cette lutte. Au Kasaï central, les leaders coutumiers avaient déjà décidé de s'impliquer. Ils ont déjà eu à signer un acte d'engagement pour lutter contre ces pratiques qui entravent l'épanouissement des femmes. Cependant, sur le terrain, les vieilles habitudes ont la peau dure. Qu'en est-il, André Katende?
mariage précoce, lévira ou encore sorora, ces pratiques coutumières ont longtemps réduit les femmes kassaïennes à de simples objets. Il y a aussi ces humiliations publiques des femmes accusées d'adultère qu'elles ont fait promener nues en pleine journée. Aujourd'hui, grâce aux actions de sensibilisation, plusieurs autorités traditionnelles affirment avoir pris conscience de la situation. Elles s'engagent à abolir de telles pratiques. Le chef Étienne Samwanda du groupement des Apumapunda Samwanda dans les territoires de Luisa explique les raisons.
Ces pratiques sont critiquées pour leur impact néfaste. Nous sommes parvenus à signer un acte d'engagement pour abolir quelques coutumes de notre tradition.
Malheureusement, au début de leur combat, certains chefs signataires passaient pour des traîtres. Mais la sensibilisation a progressivement fait évoluer les mentalités, souligne André Kalala, premier vice-président de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières du Kasaï central. Cet engagement a aussi poussé l'Assemblée provinciale à adopter un édit contre les coutumes avilissantes. Mais malgré cela, ces pratiques persistent dans la communauté. Les chefs coutumiers appellent désormais au respect de cette législation. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Okapi.
Le gouvernement a déposé deux projets de loi samedi au Parlement. Ils portent sur la ratification de l'accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et aussi sur l'accord stratégique signé entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Les textes ont été réceptionnés par le président de l'Assemblée nationale en présence de celui du Sénat ainsi que des membres des bureaux des deux chambres du Parlement. Les documents ont été remis par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka accompagnée de plusieurs membres du gouvernement. La chef du gouvernement explique le sens de cette démarche. Les propos de Judith Suminwa sont recueillis par Grace Amzati.
Nous avons décidé donc avant la rentrée parlementaire de pouvoir déposer ces projets de loi pour ratification parce que c'est ce que prescrit la Constitution et c'est important que les élus du peuple puissent être au courant, même s'il y a eu des discussions en réunion interinstitutionnelle autour du chef de l'État et les chefs d'institution. Il est important maintenant que les élus du peuple puissent à leur tour être pleinement informés du contenu de ces accords afin que la population congolaise puisse être au courant parce qu'il n'y a rien à cacher. Tout ce qui a été fait au bénéfice du peuple congolais, particulièrement le peuple à l'Est, pour la paix, parce qu'il est important que ce processus évolue pour assurer notre souveraineté et notre intégrité territoriale, c'est ce que nous avons recherché jusque-là, mais aussi dans le cadre des accords stratégiques pour le développement de notre pays, parce que nous voulons un mieux-être pour notre population. Nous avons aussi un peu regardé comment nous allons nous préparer pour la rentrée parlementaire.
Mais avant cela, jeudi, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bougi, accompagné d'autres membres du bureau, a eu à recevoir certains membres du gouvernement souminois. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des consultations engagées en prélude à la rentrée parlementaire prévue dimanche prochain, le 15 mars. Ces échanges ont porté notamment sur l'exécution du budget de l'État. Parmi les personnalités reçues figurent le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Mouzito, ainsi que la vice-ministre des Finances, Grace Yamba Akazadi. Plus de détails avec Kassam Zati.
Selon le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Jacques Joly, ces consultations ont permis de faire le point sur l'exécution du budget au cours du premier trimestre de l'année. Objectif, dégager les grandes tendances, notamment en matière de mobilisation des recettes et d'exécution des dépenses publiques. Le bureau de l'Assemblée nationale a également transmis au gouvernement les attentes du Parlement sur cette question. Jacques Joly rappelle que l'Assemblée nationale, en tant qu'autorité budgétaire, doit veiller au respect strict des règles fixées dans la loi des finances. Autre annonce, l'examen de la loi portant reddition des comptes n'aura plus lieu en septembre. Il interviendra désormais au plus tard le 15 mai. Une mesure qui vise à permettre au Parlement d'exercer un contrôle plus rapproché sur l'exécution du budget de l'État. La question du taux d'exécution des recettes et des dépenses publiques a également été abordée. Le Parlement insiste notamment sur la nécessité d'assurer plus de fluidité dans l'exécution du budget, en particulier pour garantir la paix régulière des agents de l'État. À en croire Jacques Joly, à travers ces consultations, le bureau de l'Assemblée nationale prépare activement la prochaine rentrée parlementaire. Un avant-projet de calendrier a déjà été élaboré en concertation avec le gouvernement afin de garantir un travail parlementaire efficace et apaisé, dit-il.
À Kinshasa, le temps se durcit dans le secteur du transport urbain face à la recrudescence des cas d'enlèvement. Le gouverneur Daniel Bumba annonce qu'à partir du 23 mars, tous les chauffeurs devront présenter leur carte professionnelle. En outre, chaque véhicule sera identifié et géolocalisé. Le but est de sécuriser les Kinois et remettre de l'ordre dans les secteurs de voitures de transport avec chauffeurs ou VTC. Que retenir à ce sujet, Ilaché Mbalou?
Dans un communiqué officiel, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a instruit le ministre provincial des Transports, Jésus Noël Cheikh, de mettre en œuvre une série de mesures sécuritaires et technologiques pour contrer l'insécurité grandissante dans la capitale. Dès le 23 mars, une opération d'envergure sera lancée. Parmi les mesures phares, identification obligatoire de tous les véhicules de transport avec chauffeur, mise en place d'un QR code sécurisé pour tracer instantanément chaque véhicule, obligation pour le chauffeur de disposer d'une carte professionnelle valide, connexion des plateformes, voitures de transport avec chauffeur, VTC avec l'Agence de développement du numérique de Kinshasa, APDNK, pour assurer une géolocalisation à temps réel. Avec cette initiative, l'exécutif provincial veut non seulement renforcer la sécurité des citoyens, mais aussi restaurer la confiance dans les transports urbains à Kinshasa.
Restons à Kinshasa, dans la commune de Mongafula, Matadi Kibala précisément. L'état de la route nationale numéro 1 inquiète ses usagers. Depuis plusieurs semaines, la chaussée se dégrade sous l'effet d'un écoulement d'eau provenant d'un tuyau défectueux de la régie des eaux. Une situation qui provoque des embouteillages monstres et cela ne facilite pas non plus la tâche aux piétons qui cherchent où mettre les pieds. Tous les usagers de cette route plaident pour une intervention rapide des services compétents. Qu'en est-il, Gloriane Lepea?
De trous avec des flaques d'eau stagnante et embouteillages à répétition, c'est l'image que représente cet axe de la route nationale numéro 1 au niveau de Matadi Kibala dans la commune de Mongafula. Une situation qui complique la circulation aux automobilistes, motocyclistes et piétons. Pour certains usagers de la route, la cause principale de cette dégradation serait un problème d'évacuation d'eau au niveau de l'arrêt de bus.
Ce problème vient d'un tuyau qui fait sortir l'eau ici près de l'arrêt. L'eau coule constamment sous l'arrêt et ça finit par abîmer la chaussée. Maintenant, il y a des trous partout et les véhicules sont obligés de ralentir, ce qui crée de gros embouteillages.
Même constat pour ce motocycliste qui emprunte régulièrement cette route.
Cette route apporte de l'argent au pays et doit être en bon état. Nous demandons aux autorités d'intervenir rapidement, qu'ils n'attendent pas que les dégâts deviennent plus graves.
Les usagers de cette artère appellent ainsi les autorités compétentes à réhabiliter ce tronçon d'intérêt national.
Actualité internationale.
En Iran, l'Assemblée des experts a officiellement désigné hier soir Mojtaba Khamenei comme nouveau guide suprême de la République islamique. Il succède à son père Ali Khamenei, tué le 28 février lors d'une offensive américano-israélienne. La décision du collège de 88 dignitaires du clergé chiite a été annoncée solennellement à la télévision d'État. Le religieux de 56 ans, figure discrète, mais influente du régime, est réputé proche des gardiens de la révolution et des milieux conservateurs. Les principaux institutions de l'État, forces armées, gardiens de la révolution, police et diplomatie ont prêté allégeance aux nouveaux dirigeants. Des violentes pluies tombées la nuit de vendredi à samedi ont provoqué d'importantes inondations à Nairobi, la capitale du Kenya. Plusieurs routes ont été submergées, piégeant des automobilistes pendant des heures. Dans certains quartiers, l'eau est montée jusqu'à la taille, obligeant des conducteurs à abandonner leurs véhicules pour rejoindre des zones non plus sûres. Face à cette situation, l'armée a été déployée pour soutenir les services de secours, tandis que les équipes de la Croix-Rouge kenyane tentaient d'atteindre des personnes bloquées par les eaux.
L'invité.
Il s'agit de Christelle Vuanga Mukongo, élue de la circonscription électorale de Lafuna ici à Kinshasa. Elle est présidente honoraire de la commission Genre, Famille et Enfants de l'Assemblée nationale au cours de la législature de 2018. Avec elle, nous parlons de l'état de lieu du leadership féminin en République démocratique du Congo, des avancées ainsi que des défis à relever. Christelle Vuanga s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Madame Christelle Vuanga, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quel est l'état des lieux du leadership féminin en République démocratique du Congo?
L'état des lieux au niveau des textes, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'avancées et je peux commencer par la constitution qui est parmi les rares constitutions à contenir le mot parité et je peux dire que c'est une belle avancée. Il y a aussi la loi de 2006 sur les violences sexuelles, également la disposition dans la loi électorale que j'ai eu à porter à l'Assemblée nationale la législature passée qui consacre l'allègement des frais pour les listes qui présentent 50% des candidatures féminines. Il y a au niveau de la santé sexuelle et reproductive, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons réfléchi comment est-ce que nous pouvons appuyer la question de la contraception, par exemple, comment est-ce que les violences faites aux enfants. Au niveau juridique, on peut avoir des allègements, des coûts, des accompagnements des avocats et d'organisations. Il y a eu beaucoup d'avancées. C'est vrai qu'il est souhaitable de travailler davantage, mais je peux citer quand même celle-là.
Ici, au pays, il y a la problématique de la révision de la Constitution. Croyez-vous que dans votre domaine-là du leadership féminin, il n'y a rien à arranger?
Bon, je pense que le débat n'est vraiment pas au niveau de la révision de la Constitution. Le débat, c'est d'abord autour de qu'est-ce que nous faisons déjà des acquis qu'on a réussi à intercepter. Et au niveau de la femme, c'est vrai que la femme est une actrice majeure de notre société et qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas négocier, on ne peut pas avancer sans la question de la femme. Je pense qu'au moment opportun, à travers les organisations, à travers les femmes qui sont dans l'armée, qui sont à l'Assemblée nationale ou au gouvernement, on trouvera des mots exact pour réaffirmer ce que l'on pense de la femme congolaise.
Alors dites-nous, madame la députée, quels sont les défis à relever quant à ce?
Le premier défi pour moi, c'est d'ordre culturel. Les pesanteurs culturelles, il y en a beaucoup. On pense que nous sommes dans une société où il y a beaucoup de charges mentales chez la femme, où on exige à la femme d'être la parfaite femme, et à travers la masculinité positive, à travers l'éducation à la base, l'éducation du jeune garçon, on doit enseigner que nous sommes dans une société où il y a les hommes et les femmes et que nous devons travailler ensemble. Pour moi, c'est le premier défi culturel.
D'aucuns pensent que les femmes ne se sentent pas elles-mêmes capables de se faire une place sous le soleil dans la sphère décisionnelle. Qu'en pensez-vous de cette allégation?
Je pense que c'est faux. Déjà, l'intelligence n'a pas de sexe. Le cerveau est asexué. De la même manière que les hommes, il y a certains hommes qui font des bonnes choses, de la même manière qu'il y a des femmes qui sont vraiment très impliquées dans leur domaine. Et peut-être ce qui manque, c'est de montrer ces femmes-là.
Justement, c'est ça.
Dans les médias, il faut promouvoir aussi ces femmes qui font exception. C'est vrai que nous sommes dans une société où l'on regarde souvent quand ça ne va pas, mais je pense qu'on devrait plutôt fixer nos caméras vers ces femmes-là qui font exception.
Alors, quels sont les obstacles à contourner, d'après vous?
Les obstacles, premièrement, c'est la femme aussi elle-même, parce qu'elle a une responsabilité. C'est la force, c'est le courage de la femme de s'affirmer, de parler, de prendre parole, surtout devant les gens. Les femmes nous regardent souvent. Quand je dis nous, c'est-à-dire que nous qui sommes au Parlement, elles s'inspirent de ce que l'on fait. Lorsqu'on est courageuse, quel que soit le domaine, on doit arriver à faire changer ce que l'on pense de nous. Et je pense vraiment que la première chose, c'est la responsabilité, la prise de conscience et de changer notre avenir.
Nous sommes là, madame, dans le mois consacré à la femme. Avez-vous un message à lancer à toutes les femmes de la RDC et particulièrement à celles de votre circonscription électorale?
Merci infiniment. Beaucoup d'espoir et beaucoup de courage, beaucoup d'engagement à ces femmes-là. La vie a toujours été difficile. Déjà, les hommes eux-mêmes se battent. Ils se battent pour s'affirmer. La vie, c'est une jungle. Il faut être rapide. Il faut avoir beaucoup de courage. Donc, à toutes les femmes congolaises, les femmes de la FUNA, d'où je viens, je suis là pour elles. Avec nos petits projets communautaires, nous essayons de changer la vie de certaines femmes. Et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et de nous rejoindre surtout.
Christelle Vuanga Mukongo, je vous dis merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Christelle Vuanga Mukongo, députée nationale élue de la circonscription électorale de la FUNA ici à Kinshasa. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Jude Mister Bilanda, mis en onde par André Mungu. Merci de l'attention que vous nous avez accordée. Bon début de semaine.